Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. A priori, ça relève des questions de technologie. Je parle de la guerre économique que mènent les États-Unis à la Chine. En réalité, c'est de la géopolitique, car qui veut dominer le monde doit maîtriser les infrastructures de communication. C'est le cœur de la bataille qui oppose Pékin et Washington. Pour en parler, je reçois Benjamin Birnbaumer, économiste, maître de conférences à Sciences Po Bordeaux et auteur d'un livre récent qui publié aux éditions La Découverte intitulé « Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation ». Bonjour Benjamin Birnbaumer.
Bonjour.
Alors, est-ce que les États-Unis et la Chine sont en guerre économique ?
Alors, en toute rigueur, je garderai le mot « guerre » pour l'affrontement armé. Ouais. Néanmoins, il y a bien une dynamique conflictuelle autour de la mondialisation elle-même. La mondialisation, c'est un processus qui est sous supervision américaine et la montée en puissance de la Chine en est le résultat. Or, paradoxalement, aujourd'hui, la Chine, précisément, conteste la mondialisation, essaie de mettre en place un ordre
son propre ordre. Alors, voilà. Donc, vous, dans ce livre, vous reprenez un petit peu le concept de Susan Strange, qu'une économiste, ancienne journaliste, qui a créé l'école de pensée internationale, qui mêle la politique et l'économie pour comprendre les rapports de force. Et elle parle de pouvoir structurel. C'est quoi le pouvoir structurel ?
Alors, le pouvoir structurel est un terme qui vise à rendre compte du fait que certains pays ont le pouvoir de fixer les règles du jeu. Donc c'est pas seulement suivre les règles, mais fixer les règles.
Toutes les règles du jeu.
Exactement, que ce soit sur le plan numérique, sur le plan monétaire, sur le plan productif. Donc quand on a le pouvoir structurel, on a évidemment un pouvoir exorbitant sur le monde entier.
C'est les États-Unis qui ont le pouvoir actuellement structurel.
Exactement. Les États-Unis ont construit la mondialisation à partir de leur pouvoir structurel et la profondeur du conflit qui oppose aujourd'hui la Chine et les États-Unis porte précisément sur le pouvoir structurel qui est contesté par la Chine, qui essaie de développer le sien. Et évidemment, c'est inacceptable pour les États-Unis.
À partir de quoi la Chine essaye de construire son propre pouvoir structurel ?
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années 80-90, on parle beaucoup de symbiose transpacifique. Oui. C'est l'harmonie entre les États-Unis et la Chine. Et pourtant, c'est de ce processus même qu'est issue la volonté chinoise de tout renverser. Donc, dès les années 2000, en réalité, on voit que la Chine essaie de développer ses propres technologies. Elle essaie d'internationaliser sa monnaie. Elle fait des progrès assez importants aussi en termes de construction d'infrastructures. Et le tout s'accélère après la crise de 2007-2008.
Et donc, l'idée de la Chine, c'est de créer son propre pouvoir structurel. Donc, en face des GAFAM américains, il y aurait les fameux BATX chinois, Xiaomi, etc., les TikTok, les géants actuels, c'est ça ?
Ce qui est essentiel, c'est de comprendre que quand on détient le pouvoir structurel, non seulement ça génère des retombées économiques colossales pour ses propres entreprises, mais en plus, le pouvoir structurel donne aussi un pouvoir extraterritorial au-delà de son propre territoire, assez impressionnant. Et donc la Chine cherche les deux, donner un coup de pouce à ses entreprises et, deuxièmement, renforcer son pouvoir politique sur le monde. Ça passe, entre autres, par les technologies, mais ne s'y limite pas.
Elle y est arrivée, la Chine ?
Alors, ce qui est frappant, c'est que, pour l'instant, les États-Unis conservent quand même une avancée assez confortable. Donc ça, c'est le point clé. Par contre, il faut quand même s'interroger un peu sur les dynamiques, parce que c'est ça qui va ensuite avoir un impact sur le futur. Et là, sur les 15 dernières années, quel que soit le domaine que vous prenez, la monnaie, les technologies, la production, eh bien, le rattrapage de la Chine est assez impressionnant. La Chine se rapproche des États-Unis, réduit l'écart et construit des institutions qui accompagnent précisément cette montée.
Dans certains domaines, elle peut dépasser les États-Unis. Vous l'avez vu ou ça pas encore ?
Alors, effectivement, ce qui circule beaucoup en ce moment, c'est une étude d'un institut australien qui dit que la Chine est précurseur dans 37 des 44 technologies du futur. Alors, c'est peut-être un peu optimiste. Néanmoins, les économistes, par exemple, regardent les brevets. Qui dépose les brevets les plus importants? Et là, on a clairement une Chine qui se rapproche, tout comme on entend que la Chine exporte beaucoup de véhicules électriques, qu'elle exporte des panneaux solaires. Donc comme ça, ça donne des éléments. Néanmoins, la Chine, elle reste deuxième, mais avec des capacités innovantes.
Votre sentiment, elle va y arriver ?
Je dirais que oui, c'est tout à fait probable. Ouais. C'est tout à fait probable, d'où l'intensité précisément du conflit, d'où les sanctions auxquelles on assiste, sanctions technologiques, sanctions financières, la bataille technologique, tout ça est à comprendre à l'aune de ce conflit et de ce rattrapage.
Donc, réaction américaine ? Mais où est la stratégie de réponse ?
Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que les États-Unis ont dormi un peu pendant quelques décennies. C'est en 2016, c'est un des derniers actes de l'administration Obama, en réalité, donc ça précède Trump, qu'il y a prise de conscience du rattrapage technologique chinois. Et donc, Obama met en place un groupe de suivi. Depuis, ce type de groupe de travail s'est multiplié aux États-Unis, tout comme les États-Unis se sont rendus compte aussi que la Chine, eh bien, elle gagne aussi en popularité dans le reste du monde grâce aux nouvelles routes de la soie. Elle construit des infrastructures, alors que le consensus de Washington, précisément l'austérité imposée par les États-Unis dans les années 80-90, c'était l'opposé. Les États-Unis ont opposé le reste du monde de développer des infrastructures et maintenant la Chine le fait.
Bon, et les sanctions, les embargos, les refus de transfert de technologie de la part des États-Unis, ça marche ou pas ?
Eh bien, ça marche, mais pas aussi bien qu'espéré par les États-Unis. Ce qu'on constate, effectivement, si on prend les semi-conducteurs, par exemple, c'est que les États-Unis visaient à maintenir la Chine dans une position de retardataire. Ouais. Deux générations, à peu près, devaient séparer les États-Unis à la pointe et puis la Chine. Et ce qu'on constate cette année, début 2024, c'est que la Chine, malgré les sanctions technologiques en vigueur depuis 2019, eh bien, elle avance plus vite qu'anticipé par les États-Unis. Ouais. Les capitaux affluent vers la Chine pour développer ce secteur, puisque c'est un secteur porteur d'avenir.
Quand les États-Unis disent « on va racheter TikTok », c'est une réponse à la hauteur de l'enjeu ou pas ?
Eh bien, il y a une part de vérité dans ce domaine, puisque pour développer l'intelligence artificielle, il faut énormément de données. Il faut nourrir les modèles d'intelligence artificielle grâce aux données. Et donc TikTok, c'est une formidable machine à brasser des données. Donc évidemment, cela permet aux entreprises chinoises d'être plus performantes dans le développement de l'intelligence artificielle. Donc de ce point de vue, on comprend la démarche américaine, sauf que le risque, c'est qu'en réalité, la Chine a plus vraiment besoin des données du marché américain parce que son propre marché domestique est gigantesque.
Puis on remettra en cause quand même un des piliers de l'économie de marché, quoi. Le droit d'avoir ses propres entreprises et le fait de les racheter parce que, soi-disant, elles n'appartiennent pas aux États-Unis.
Eh bien, ce qu'on entend souvent depuis quelques années, c'est le terme de militarisation de l'économie mondiale.
Weaponization.
Voilà. Weaponization. Et on est pleinement dedans. Tout comme les sanctions financières se multiplient, eh bien les sanctions technologiques, elles aussi, se multiplient, en l'occurrence, surtout contre la Chine. Donc, de ce point de vue-là, le libre accès au marché, eh bien, ce principe-là, il n'est plus appliqué dans la réalité depuis un certain temps.
Militarisation, mais vous ne voulez toujours pas utiliser le terme de guerre économique. C'est marrant ce décalage entre des outils que vous identifiez comme militarisés, des outils économiques, et le refus de voir cet affrontement comme une guerre économique.
Mais il me semble que la guerre en tant que telle, en termes de dommages qu'elle cause, est encore un autre niveau de confrontation. Mais, et je suis bien d'accord avec vous, la dynamique économique actuelle peut tout à fait mener à la confrontation. Et on voit déjà une course à l'armement dans l'Indo-Pacifique, autour de Taïwan. Donc effectivement, il peut y avoir un prolongement tout à fait réel en termes de guerre.
Une dernière question, réponse rapide. Nous, les Européens, dans cette bataille des deux géants ?
Eh bien, les Européens, en réalité, se sont réveillés un peu trop tard aussi, puisqu'ils sont maintenant dans une dépendance vis-à-vis des technologies chinoises, et leur jeu d'équilibriste d'allier avec les États-Unis tout en achetant du chinois, eh bien, risque de ne plus fonctionner très très vite.
Merci beaucoup Benjamin Burbaumer pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et nos podcasts. Au revoir.